Eh bien, bonjour à notre invité. Donc, il s'agit de Charles Garcin pour nous parler du Cairn, Centre d'art à Digne-les-Bains. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre mission alors ?
Eh bien, outre la gestion même du centre d'art, c'est aussi imaginer une programmation artistique qui soit en adéquation avec Digne et l'arrière-pays dinois. Et puis aussi, on espère créer un modèle de culture un peu alternatif qu'on trouverait nulle part ailleurs, sauf à Digne. Qu'est-ce qui distingue le Cairn d'autres centres d'art ? Le Cairn, c'est un lieu d'exposition, mais c'est un lieu d'exposition qui est un peu particulier. Alors, il se trouve dans l'enceinte du Parc Saint-Benoît, là où il y a le musée Promenade à Digne, donc qui est vraiment un lieu très agréable, notamment l'été, lorsqu'il fait chaud, et que je vous recommande d'aller visiter. C'est un centre d'art qui a sa salle d'exposition là-bas, avec aussi une résidence d'artiste. Voilà, parce que ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité du Cairn, c'est-à-dire que c'est un centre d'art qui accueille, qui héberge des artistes et qui leur fait découvrir le territoire des Alpes de Haute-Provence pendant 2 ans, parce que nous, on fait uniquement des résidences d'artistes et ces résidences-là, elles durent 2 ans. Donc, ça ne veut pas dire 2 ans passés à Digne, bien entendu, mais c'est 2 ans pour que les artistes puissent continuer à faire d'autres expositions. On sait que certains enseignent, et voilà, mais qu'ils puissent vraiment mûrir dans le temps un projet qui soit en réponse à notre territoire. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'ils sont logés sur place, là-bas ?
Alors, ils sont logés sur place. On peut voir la résidence d'artistes lorsqu'on monte jusqu'au musée Promenade, sur la droite, de suite après la source pétrifiante de Saint-Benoît. Vous avez une très jolie maison en dessous des remparts, qui est une maison d'architecte qui a été conçue par Bruno Chiambretto, qui est l'un des 2 architectes qui a aussi réalisé le musée de la préhistoire à Quinçon. Et qui est une maison donc construite en 2000 et qui bouche en quelque sorte le trou laissé par la carrière de tuf dans les falaises du parc Saint-Benoît. Donc c'est-à-dire que voilà, on a des trous dans la montagne et cette maison vient remplir ces trous et vient avec une vue absolument sublime sur la Bléone, la barre des Dourbes, Digne, la cathédrale Saint-Jérôme. Donc vraiment, on a un lieu exceptionnel pour accueillir les artistes et pour les aider aussi à dans leur processus, leur donner le maximum pour qu'ils soient inspirés. C'est vraiment exceptionnel puisque la plupart des résidences artistiques durent parfois quelques semaines, 1 mois, voire 2-3 mois maximum. Là, on est vraiment sur un format très particulier et parce qu'on est sur le temps long. Voilà, oui. C'est comme on parle de slow food ou de prendre le temps, de pas être dans la surconsommation. Là, c'est pareil. On est vraiment sur des optiques de temps qui sont un peu durables, on va dire. Et lorsque ça se passe vraiment très bien avec des artistes ou qu'on voit qu'il y a un potentiel, les résidences se poursuivent même au-delà. C'est-à-dire que 3 ans, 4 ans. Et à ce moment-là, généralement, c'est des résidences d'artistes qui aboutissent à la création d'œuvres d'art en montagne, dont on parlera certainement tout à l'heure. Voilà.
Eh ben, pourquoi pas tout de suite.
D'accord.
Est-ce qu'il y a déjà, puisqu'on approche des vacances de février, est-ce qu'il y a des animations là tout de suite ou des expositions?
Alors, je rappelle que le Cairn fait partie d'une nouvelle structure qui s'appelle Ambulo. Je reviendrai sur le nom de la structure. C'est un pôle artistique et muséal qui comprend le Cairn, mais aussi le musée Gastindi et la maison Alexandra Davinel. Et en plus, mais c'est pas vraiment une institution, la collection d'art en montagne. Donc là, je fais une transition. Donc cette collection d'art en montagne, justement, ce sont les artistes invités par le Cairn qui, selon la relation qu'on va avoir avec eux et le projet qu'ils portent, vont concevoir des œuvres d'art pérennes qui vont se retrouver sur le territoire du géoparc de Haute-Provence et qui sont visibles depuis des chemins de randonnée. Donc en fait, mais c'est pas des œuvres au bord de la route qu'on peut avoir ailleurs. Il faut vraiment aimer la marche. On a peut-être 1h30, 2 heures à faire dans des paysages absolument sublimes. Et voilà, pour aller voir ces œuvres. Alors, dans ces œuvres, il y a des sculptures, il y a aussi des interventions, on appelle ça, qui sont beaucoup plus subtiles. Et puis, on a aussi les fameux refuges d'art d'Andy Goldsworthy.
Voilà, moi, j'étais restée avec cet artiste uniquement. Mais il y a d'autres œuvres, donc...
Il y a beaucoup d'autres œuvres. Il y en a environ 120, réparties sur une aire de 220 000 hectares. Voilà.
Donc, d'Andy Goldsworthy, plus de nombreux autres artistes.
Exactement, voilà. Et donc, je rappelle juste pour nos auditeurs que les refuges d'art, ce sont des refuges qui ont été construits par un artiste qui a été un des pionniers du mouvement Land Art. Donc, c'est des artistes qui ont décidé de sortir du musée et de la galerie pour créer des œuvres en extérieur et qu'on peut passer la nuit dans une œuvre d'art et qu'il suffit de demander la clé au musée Gassendi pour le prix d'une entrée. Donc comme ça, on peut en plus de ça visiter le musée et découvrir son travail dans l'ensemble et voilà, avoir l'expérience unique de passer pour 6 euros la nuit dans un refuge d'art complètement unique en France.
Alors la liste des refuges d'art, les adresses, on les trouve où ?
Alors vous trouverez toutes les informations au musée Gassendi.
D'accord.
Voilà, mais le plus connu c'est le refuge du vieil Esclangon, voilà, qui est dans la vallée du Besse. Pas loin du Vélodrome. Mmh. Alors, juste en face en fait, on a pour avoir le meilleur point de vue sur le Vélodrome. Qui est cette formation géologique quasi unique, puisqu'il y en a peut-être 4 ou 5 sur toute la Terre, eh bien, voilà, on passe par l'ancien hameau du vieil Esclangon, et on peut passer la nuit là-bas dans un refuge d'art.
Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de surveillance. Enfin, on a toujours.
Alors, il n'y a pas de surveillance, bon, bien sûr, à part le fait qu'on demande une caution, bien entendu. Et une pièce d'identité.
Oui, il faut réserver.
Oui, on peut pas y aller comme ça, voilà, parce qu'on a des contraintes de nuitée. Enfin, c'est quand même, on a quand même 500 personnes qui vont, enfin, 500 nuitées, donc même pas 500 personnes, mais plus au final chaque.
Donc
année.
C'est fermé.
Et c'est fermé à clé.
C'est
voilà.
Ah voilà, c'est
la,
ça.
Faut demander la clé
c'est...
au musée.
Voilà. Donc il faut s'adresser au musée pour dire de tel jour.
Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, enfin c'est quand même une expérience magnifique. J'ai refeuilleté récemment les archives et c'est vrai que ce hameau qui était vraiment en ruine, c'est-à-dire que là la maison c'est une très belle. Très belle vieille bâtisse, mais elle a été reconstruite de A à Z par l'artiste, un endroit complètement isolé dans la montagne. Enfin, ça a été un véritable chantier. Voilà. Et c'est aussi une véritable expérience d'entrer dans ce décor vraiment magique.
Donc 6 euros la nuit.
Tout à fait.
Par personne.
Non, juste non. 6 euros pour la réservation. Donc
pour
si
la
vous êtes
réservation.
Plusieurs, c'est 6 euros, ça
et
change pas.
Et on peut héberger combien de personnes dans ce refuge ?
3-4. Voire 5 si on se sert.
D'accord.
Et vous avez aussi un feu de cheminée à l'intérieur. Enfin, vous pouvez vraiment.
Voilà. Bien. Donc, on trouve toutes ces informations sur le site du musée ?
Sur le site du musée, voilà. Et puis, en demandant aussi directement à l'accueil. Voilà.
D'accord. Alors, quoi d'autre ?
Alors, justement, puisque comme nous sommes un pôle avec ces différentes structures, je profite pour vous dire que. Cette année, exceptionnellement, le musée Gassendi accueillera une rétrospective du travail d'Andy Godsworthy à Digne-les-Bains. Donc ça se fera fin juin. Je ne peux pas encore exactement vous donner la date. Ce sera sans doute entre le 23 et le 30 juin. Et voilà, donc c'est vraiment voilà, une exposition un peu majeure qui revient sur un des premiers artistes pionniers à avoir apporté une offre d'art contemporain dans le département des Alpes-de-Provence et qui nous réserve beaucoup de surprises parce que nous-mêmes, on sait qu'il va y avoir des œuvres qu'on n'a encore jamais vues. Voilà, des croquis, des photographies, des schémas et on est très impatients de découvrir ce travail. On a actuellement notre directrice, Nadine Gomez-Passamar, qui est en Écosse pour travailler avec l'artiste et on vous prépare tout ça pour cet été. On a un magnifique programme. Le 16 juin, on a aussi, non, le 15, pardon, on a aussi l'inauguration de la maison Alexandra Davinel, puisque certains ou certaines l'ont peut-être déjà vu, mais voilà, elle subit tout une phase de grands travaux de rénovation. Donc on aura les façades qui ont été refaites exactement telles qu'elles étaient à l'origine. Il y a une revégétalisation aussi de tous les jardins. Donc on va à nouveau avoir des jardins qui vont être superbes. Donc ça, c'est le 15 juin. Et ça va être aussi l'occasion d'inaugurer cette exposition temporaire qui s'appelle Entre mystique et magicien. Donc c'est sur la magie au Tibet, avec plein d'artefacts magiques qui, pour la plupart, nous sont prêtés, je le rappelle, par le musée Guimet des Arts Asiatiques à Paris. Et puis, en attendant, parce que ça c'est l'été, on a quand même le 17 mars un événement. Le musée Gassendi organise une soirée flamenco avec una pena flamenca le 17 mars. Dans le top, là où il y avait l'ancien Tonton Pépino, voilà, on a privatisé la salle qui était au rez-de-chaussée pour faire venir les gens avec un espace restauration, des tapas, de la sangria, des danseurs, des musiciens.
Dans le bar à côté du Top, c'est ça?
Non, oui, celui qui est au rez-de-chaussée, là où il y avait Tonton Pépino, l'ancien Lido, voilà.
D'accord. Et Tonton Pépino, ça a fermé?
Ah, ça a complètement fermé.
Et donc maintenant, c'est devenu une salle...
Qui va ouvrir, je ne peux pas encore vraiment trop en parler, mais voilà, nous, le musée l'a privatisé pour cet événement festif, espagnol et artistique. Pour fêter, pour célébrer la donation de Picasso originaux par un monsieur qui s'appelle Vincent Boeuf, voilà, qui est originaire de Digne, qui était un grand collectionneur d'art et qui a voulu témoigner de sa reconnaissance à sa ville qu'il a vu naître et voilà qui nous fait donation au musée Gassendi de plusieurs Picasso originaux, voilà.
Donc, le vendredi 17 mars, à quelle heure?
Alors, je n'ai pas l'horaire précise, mais ce sera sans doute vers 18h.
Donc, la danse flamenca.
Exactement. Pena flamenca.
Oui.
17 mars pour Picasso. Le 15 juin, effectivement, donc l'inauguration de la maison Alexandra Tafinel. Fin juin, on aura... aussi l'exposition de Goldsworthy. Le Cairn fait son premier vernissage le 21 juillet. Et puis, entre-temps, on a aussi toute une série d'événements auxquels sont conviés les publics, notamment la Nuit des musées, qui est le samedi 13 mai, où là, la maison Alexandra Davinel va... et les musées Gassendi vont avoir leurs événements qu'ils vont proposer au public. Et le Cairn... invitera soit à Davinel, soit au Parc Saint-Benoît, là où il y a le musée Promenade, un artiste qui fait du beatbox, voilà, qui est actuellement à Miami, dans le cadre d'une résidence avec l'Institut français, qui s'appelle Emre Keno, et c'est quelqu'un qui fait du beatbox à l'étouffée, donc c'est vraiment très très particulier, il faut vraiment se pencher pour écouter sa musique, et il crée lui-même ses propres instruments, notamment la chaîne Melodica, qui est une chaîne en métal à laquelle il accroche des cloches et d'autres breloques en métal. Et en fait, il fait une association des deux et c'est très surprenant. Et c'est vraiment... c'est presque un état... mais presque en transe. C'est vraiment, vraiment très, très particulier comme expérience.
Donc, on est parti un peu dans toutes les dates. Et pas vraiment dans l'ordre, mais bon.
Il est tellement bien.
Actuellement, le Cairn, donc, il n'y a rien pour l'instant.
La première...
C'est ouvert en été.
Alors, le Cairn, en fait, est ouvert en même temps que le musée Promenade. Donc, l'ouverture, c'est le 1er avril. Et ça se prolongera jusque tard dans la saison, en novembre prochain. Et effectivement, donc, on aura une première exposition. Donc, on a une exposition qui va être majeure. Qui est celle de Hamish Fulton. Alors Hamish Fulton, qui est Hamish Fulton? C'est un artiste britannique qui a vraiment marqué l'histoire de l'art du XXe siècle et qui continue à être très important aujourd'hui. Et c'est un artiste marcheur. Donc voilà, on parlait tout à l'heure du nom du pôle artistique et muséal Ambulo, qui vient en fait d'une citation qu'attribue René Descartes à Gassendi, voilà, une figure dinoise s'il en faut. Parce que lui disait « je pense donc je suis » et Gassendi aurait dit « je marche donc je suis, ambulo ergo sum ». Effectivement, cette idée de la marche est très forte sur le territoire, parce que c'est quand même la meilleure manière de le découvrir. Donc Gassendi en parle, Davinel l'a expressément fait tout au long de sa vie, c'est une femme qui a énormément marché, dans l'Himalaya notamment, et puis effectivement le Cairn aussi, puisque pour découvrir la plupart des œuvres, il faut faire de la randonnée. La plupart des artistes, quand ils viennent ici, ils vont faire de la marche pour rencontrer des spécialistes, des scientifiques, aller voir des villages, rencontrer les habitants. Et donc, c'est un peu le fil conducteur de notre programmation artistique commune. Et là, donc, le 1er avril, il va y avoir donc cette exposition d'un artiste qui marche. Et son œuvre d'art, c'est la marche. Alors, ça paraît un peu étonnant. Et je vous invite vraiment à découvrir son travail, sachant que là, en l'occurrence, c'est aussi une exposition qui aura pour thématique principale le Tibet. Voilà. Donc il y a un lien avec Davinel. parce que c'est un artiste qui a effectué trois marches au Tibet, voilà, plusieurs reprises dans sa vie, et qui a été témoin de, voilà, de la situation sur place, avec la répression du gouvernement de la Chine, enfin, de la République populaire de Chine, et donc voilà, c'est un combat un peu qui se perd, et cet artiste-là montre que, bah, voilà, au-delà des modes, etc., on peut continuer à être engagé auprès de causes, voilà, que ce soit en France ou ailleurs, et voilà, qu'il faut jamais abandonner, et donc ce sera une exposition assez touchante, voilà, que je vous invite réellement à.
Est-ce que vous pouvez me répéter le nom
de l'exposition?
De l'exposition et de le.
Alors, l'exposition s'appellera Tibetan Kora. Voilà. Donc, le Kora, c'est une sorte de marche, justement, mais de pèlerinage, voilà, tibétaine.
Et ça n'a rien à voir avec Amish Hilton ?
Fulton, tout à fait, c'est Amish Fulton.
Alors, Fulton.
Fulton.
F-U-L-T-O-N. L-T-O-N et Amish A-I-A-M.
Bon, H-A-M-I-S-H.
Merci.
Vous en priez. Voilà. Et puis, sinon, que dire de plus ? Donc, comme on est sur un système sur deux ans, bah, le Cairn invite aussi des artistes une première année pour ensuite faire l'exposition de 2024. Et là, on a quand même aussi quelques très beaux projets à vous faire découvrir. On a un artiste qui vient, c'est l'artiste sans doute au monde qui est le plus spécialisé sur la question de l'apiculture. Voilà, c'est un artiste anthropologue qui s'appelle Aladin Borioli, qui est suisse, et voilà, qui est de formation en anthropologie, et qui a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Ruche, qui est une histoire visuelle de l'architecture de la ruche en 4000 ans, de moins de 1300 à 1852, qui est la date officielle du dépôt du premier brevet de ruche moderne, à partir de laquelle l'architecture de la ruche rentre dans un état de dormance, et qui vient sur nos territoires pour étudier les anciennes traditions apicoles, notamment l'apiculture à la cordée dans les gorges du Verdon, et voilà, qui va faire un travail d'interview sur place auprès des apiculteurs anciens et plus jeunes, et voilà, faire une sorte de condensé un peu de la région. Et puis on a aussi un projet européen qui s'appelle Entre Serras, qui fédère le Portugal, l'Espagne et le sud de la France sur les identités montagnardes contemporaines. Et là, on va vous concocter un projet avec deux résidences d'artistes, une sur le pastoralisme et une sur l'astronomie. Voilà. On va essayer de faire en sorte que les deux se rejoignent, avec comme figure centrale l'observatoire, puisque l'observatoire, c'est la jonction entre la terre et le ciel, entre les traditions, puisqu'il y a des bergers qui viennent avec leur troupeau, et les nouvelles technologies, la modernité, et aussi c'est ce lieu d'observation privilégié pour observer la géologie, bien sûr, les fossiles, les paysages fossiles, l'implication de l'homme sur le territoire, et puis pour observer des lumières fossiles qui sont celles des étoiles que nous pouvons voir aujourd'hui. Voilà.
Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses ?
Mais non, pas spécialement, non. À part que voilà, nous serions évidemment très heureux de vous voir pour ces différents événements, puisqu'on va avoir quand même donc le 17 mars. Je me permets de le rappeler, donc cet événement festif chez l'ancien tonton Pépino pour la Pena Flamenca.
Donc ça, c'est payant ?
Non, c'est gratuit.
C'est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver.
Il n'y a pas besoin de réserver. Ensuite, nous avons donc le 25 mars, samedi 25 mars, le vernissage d'Amish Fulton. L'exposition ouvre le 1er avril, mais le vernissage a lieu le 25 mars. Mm-hmm. Je précise qu'il y aura un buffet tibétain cuisiné par un chef local.
Ça fait tout de suite venir du monde. Hein.
Exactement.
Le 25 mars, tout donc, à la maison Alexandra Vinet.
Non, ce sera au Cairn.
Au Cairn.
Au Cairn, voilà. Dans l'enceinte du parc Saint-Benoît. Le 1er avril, nous inaugurons une œuvre à Puymoisson, voilà, sur la route du GR 69, la route de la transhumance, voilà, qui est une œuvre qui est une sorte de carte une carte récit, les artistes appellent ça, c'est Till Roskens et Elsa Noyon. Donc c'est une carte écrite avec des témoignages de bergers voilà, anciens, contemporains, français ou de Roumanie qui viennent sur le territoire. Bon, c'est une étude assez intéressante. Le 7 avril, il y a un événement à la médiathèque avec la restitution du travail de l'artiste Yann Kopp. Et puis ensuite, voilà, il y aura encore beaucoup d'autres événements.
Est-ce que le site est régulièrement tenu à jour avec toutes ces dates ?
Alors, c'est une
bonne question.
Une très bonne question. En fait, voilà, suite à la décision de faire pôle artistique et muséal en Bulot, nous travaillons aujourd'hui sur la réfaction d'un nouveau site pour l'ensemble du pôle et pour chacune des trois structures.
D'accord.
Qui la composent. Donc, en fait, on essaie de tenir à jour ces sites web. Voilà, bon, pour le Zéga Sindy ou pour Alexandra Davinel, c'est très bien tenu à jour. Pour le Cairn, un peu moins. Mais de toute manière, on avance et cette année, on aura une nouvelle interface qui sera beaucoup plus lisible. Et voilà,
il n'y a pas de Facebook, par exemple.
Alors, il y a un Facebook.
Il y a un Facebook.
Il y a un Facebook qui est pour chacune des structures. Et ça, par contre, voilà, toutes les informations seront disponibles, bien sûr.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, à bientôt. Donc, le premier rendez-vous, c'est le 17 mars et c'est un vendredi.
Exactement.
Pour cette fabuleuse soirée
animée,
animée avec la danse flamenca et pour avoir le plaisir de voir des œuvres de Picasso, c'est ça?
Exactement.
Merci Charles Garcin.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.